Vous écoutez
RMC. RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Timothée Mémon.
23h de retour dans l'after. On va parler de l'AS Saint-Etienne dans un instant. Le temps pour moi de vous donner les résultats de la Coupe de la Ligue. Le Mans a battu Lorient 2-1, victoire d'Ajaccio face à Valenciennes 4-1, Béziers est passé au tir au but face à Auxerre, Bourg-en-Bresse face au Red Star au tir au but également, Caen, Nancy, victoire de Nancy 1-0, Clermont est passé au tir au but face au Havre, le Gazélec Ajaccio a battu Chambly 2-0, Grenoble-Rodez, victoire de Grenoble au pénalty, Niort-Châteauroux 3-1, Orléans-Guingamp 4-1, Paris FC Sochaux 2-1, voilà pour les résultats. Et puis on rappelle les qualifications pour les barrages de la Ligue des Champions de l'Ajax, du Tchéphéré Cluj et de Krasnodar contre respectivement le PAOK Salonique, le Celtic et Porto. À noter que l'Ajax jouera contre l'Apoel Nicosie en barrage. Voilà pour les résultats. Tiens, juste avant de parler de Saint-Etienne, une petite info bonus, petite réaction. Stéphanie Frappard sera au sifflet de la Supercoupe d'Europe demain entre Chelsea et Liverpool.
C'est pas depuis une semaine, ça fait un
moment. On le sait, mais je voulais avoir votre réaction quant à l'arbitrage français. Est-ce que c'est une belle promotion pour l'arbitrage français d'avoir un arbitre français à la tête de cette rencontre entre Chelsea et Liverpool, Supercoupe d'Europe, début de saison?
Évidemment, quand tu vois que ces dernières années, on était nulle part. Que même à des grandes compétitions, on n'était pas représenté. Évidemment que c'est une bonne nouvelle qu'elle y soit.
Maintenant, j'espère qu'elle y est pour de bonnes raisons et non pas parce que c'est uniquement une femme et qu'elle est là parce qu'elle a les qualités nécessaires pour y être et que ce soit pas un coup de com' de l'UEFA, par exemple.
Il y a, pas instrumentalisé.
Il y a une chance qu'il y ait une dose de ça aussi.
Ouais. Ça joue un peu.
Moi, je pensais que tu allais nous parler du donjon.
De quel donjon ?
Établissement nocturne où tu avais tes habitudes. J'ai retrouvé dans ton CV là. Le donjon à Saint-Etienne.
Enfin, ça n'existe pas.
Dans la banlieue de Saint-Etienne.
Alors ça n'existe
un
pas.
Un peu lointaine.
Non.
Bah, il paraît
ah bah non.
Que tu avais tes habitudes.
Le club inbox, tu me parles du club inbox éventuellement, pourquoi pas, mais non, pas le.
J'ai entendu parler du donjon. Un établissement de nuit aux mœurs douteuses.
Aux mœurs douteuses, très bien. Bon, c'est noté. Merci, Daniel. Justement, parlons de Saint-Etienne. Parlons de Saint-Etienne.
Ah, justement, le lien est là.
Les Verts ont débuté leur championnat par une victoire. C'est une équipe qui fait plutôt envie à voir. Boudbouz, Bouanga, Kazri, Nordin, Amouma. Il y a du football devant. Derrière, les postes ont été plutôt bien doublés. Debuchy, Moukoudi, Saliba, Perrin, Kolodziejczak, Troco, Gabriel Silva. Pourtant, il y a certaines personnes émettent des doutes. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est avec cet effectif, Kazri, Boudbouz, Amouma, est-ce qu'après Lyon et le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne a l'un des effectifs les plus techniques de ce championnat ?
Il manque Lille, quand même, je trouve, dans la liste. Après, si on parle en termes de qualité de joueur pur, je pense qu'il y a à Monaco de meilleurs joueurs que Saint-Etienne, par exemple. Mais sur cette équipe de Saint-Etienne...
À Monaco, aujourd'hui, là ?
Ah, il y a quand même du Fabregas, du Golovin. En qualité intrinsèque, t'as des joueurs qui ont plus de talent qu'à Saint-Etienne. Quand même. T'as le petit Aguilar à droite maintenant. Henrich, ça reste un bon joueur.
Ouais. Non, j'étais en train de voir parce que entre les blessés, ceux qui sont dans l'effectif qu'on oublie, ceux qui sont peut-être aussi un petit peu fatigués, plus sur la fin que le début... Ouais, en qualité intrinsèque, technique. Ouais, après, faut
en revanche,
que ça se met en route.
En revanche, je pense qu'en termes de groupe et d'équipe, c'est comme ça qu'ils peuvent rivaliser vraiment avec les plus gros du championnat. Et il y a une continuité.
Quatrième place, non ?
Quatrième place, absolument.
Ils sortent d'une très belle saison.
S'ils font pareil.
Ils n'ont pas perdu. Ils perdent Cabella, qui remplace par Boudbouz.
Pour moi, une plus-value, je pense.
Qui quoi ?
Que Boudbouz est plus intéressant que Cabella.
Ah non, moi ça je pense pas. Je pensais que Boudbouz n'était qu'un feu de paille partout où il passe. Non. Il fait 2-3 bons matchs. Bon, regarde ce qui s'est passé là où il est allé, hein, partout.
Bah, une passe décisive lors de son premier match.
On sait très bien qu'il est capable de gestes comme ça de temps en temps, mais sur la durée d'une saison, il a jamais duré. Bref, en tout cas, si le contexte lui permet d'être bon et de faire parler sa technique, tant mieux pour lui. C'est quand même un joueur de qualité. Donc, a priori, ils ont pas perdu. Ils ont remplacé un joueur par un autre joueur, on va dire grosso modo. Bon, moi, je pense que Cabella est meilleur, mais on va dire de même valeur. Ils peuvent viser le top 5. La seule réticence que j'avais, moi, c'était l'entraîneur. Si l'entraîneur Après tout, ce sont les joueurs qui l'ont choisi. Les joueurs ont voulu que Printemps, qui était le numéro 2, reste. Gasset a insisté pour que le numéro 2 reste. Si tout ça s'est fait, comment dire, en discussion, ensemble, ça veut dire qu'il n'y aura pas de trahison, quoi. Les mecs vont pas lâcher Printemps.
Oui. Non, mais
c'est jamais dans le foot, mais visiblement tout le monde a été d'accord pour que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas eu de grosse modification dans l'effectif. Il n'y a pas de raison que Saint-Etienne vise pas le top 5, quoi.
Là où je peux éventuellement avoir une réticence et que j'ai depuis le début avec justement Ghislain Printemps, c'est que même l'année dernière, c'est lui qui animait les séances. C'est un numéro 1, c'est un numéro 1 bis. Donc il est très respecté par les joueurs, c'est pas ça. Mais justement, étant donné que les joueurs ont poussé pour que ce soit lui maintenant le numéro 1, lorsqu'il va falloir prendre des décisions, par exemple
ça,
sur un Loïc Perrin,
ça, c'est
un exemple, qui était parfois dans des situations un peu délicates l'année dernière,
oui,
est-ce qu'il va vraiment trancher ?
Ça c'est vrai. Et puis des numéros 2 dont on disait le mec fait tout ou fait beaucoup de choses, puis d'un coup il devient numéro 1, compliqué. Je me souviens, Carlos Queiroz a essayé plein de fois dans les clubs, et notamment Manchester, où il a été numéro 2 de Ferguson très longtemps. Puis quand on lui a confié, on disait à l'époque, il fait énormément de choses, Ferguson l'adorait. Quand on lui a confié poste de numéro 1 en club, ça s'avérait plus compliqué, on ne sait jamais vraiment, quoi.
Après, au quotidien, je ne sais pas si vraiment il y a beaucoup de choses qui changent à Saint-Etienne aujourd'hui par rapport à l'année dernière. Le décisionnaire, c'était Gasset,
ouais.
Mais celui qui faisait les séances, c'était Printemps. Donc aujourd'hui, justement, il va peut-être falloir qu'il prenne un peu de recul par rapport à la position qu'il avait l'année dernière, un peu plus de réserve.
Daniel, justement, on te sentait un petit peu réticent quant à la capacité de Ghislain Printemps d'assumer un rôle de numéro 1.
Et ça, ouais, mais on vient d'en parler. Toi, t'es quand même, t'as tes entrées dans le Forez. Qu'est-ce que t'es d'accord pour dire que ce sont les joueurs qui l'ont voulu?
Oui, les joueurs l'ont voulu. Alors, et je pense qu'en fait, l'année dernière avait été mis en place avec Gasset, ce qu'on appelle, c'est un peu à la mode comme mot, le management participatif. Et que bah, finalement, ce management participatif s'est un peu inversé au moment de choisir l'entraîneur. Ce sont les joueurs qui ont poussé pour Printemps. Je suis inquiet pour les mêmes raisons que Damien. Quand viendra l'heure des choix, Mvilla a fait une excellente saison la saison dernière. Il peut aussi avoir une mauvaise passe à un moment. Si à ce moment-là il faut le sortir de l'équipe, ce sera compliqué. Mais je parle des qualités intrinsèques par rapport à ce que Ghislain Printemps a montré par le passé à Bastia, par exemple. C'est un entraîneur qui t'inquiète, Daniel ?
Je sais pas comment ça peut se goupiller. A priori, sur penser qu'un mec qui n'a jamais été entraîneur à 58 ans d'un coup se révèle être un numéro 1 qui a des résultats, ça peut paraître surprenant, mais j'exclus pas que ça puisse marcher au final. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très réticent, mais on verra bien.
Je pense que tant que les anciens, que sont Perrin, Mvilla, Kazri même, vraiment tiennent le groupe, c'est-à-dire les plus jeunes, qu'ils arrivent à les mettre dans le moule de Saint-Etienne avec un état d'esprit particulier, où, parce que l'année dernière, on sentait vraiment une équipe qui jouait. Il n'y avait pas d'individualité spécialement qui ressortait, c'était un groupe. Et s'ils arrivent à garder cette ligne directrice, là, ça pourrait être de nouveau intéressant. Ce sont les cadres, pour moi, qui sont les décisionnaires de cette saison.
Avec Kolo Dzeciak, probablement, qui va revenir demain, a priori, dans le Forez, et qui avait aussi beaucoup d'importance dans le vestiaire.
On dit Forez, on ne dit pas Forez.
Dans le Forez, ouais.
Dans le Forez.
Ah oui, tout le monde dit Forez, mais on dit dans le Forez. C'est comme ça.
Un peu comme la Clusaz.
Ouais. Ou Saint-Prié. Ouais. Par exemple, à Saint-Etienne, Saint-Prié-en-Jarret, mais à Lyon, Saint-Priest.
En fait,
c'est comme ça.
C'est une sorte de snobisme local ou...
C'est comme ça. Non, c'est pas un genre de patois, peut-être plutôt.
D'accord.
Peut-être l'inverse du snobisme, juste.
Je veux dire que quand tu passais tes soirées au Moloco, tu disais.
Il s'est renseigné et cette fois c'est un vrai nom de boîte de nuit.
Voilà, j'ai fini par
de
trouver.
Saint-Etienne.
Il m'a juste fallu 10 minutes pour l'enquête, voilà.
On accueille Kylian.
Et comment cet établissement au niveau de ce qui s'est passé?
Alors écoute, cet établissement, je n'y ai jamais mis les pieds.
Encore une fois, je rappelle,
je peux te parler du Bulle, je peux te parler de la mine, du club Inbox, mais
tu connais quand même le Moloco.
Je connais deux noms, évidemment. Comment ne pas connaître. Kylian est supporter de l'AS Saint-Etienne. Bonsoir Kylian d'abord.
Salut les amis.
Salut Kylian.
Alors, le premier match t'a rassuré. Au-delà de ça, est-ce que plus généralement le groupe au complet te rassure pour cette saison de Saint-Etienne?
Le groupe, il est intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de recrues cette année et assez peu de départs. Alors, j'ai récupéré le sujet en cours, mais c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas perdu en qualité. Cabella pour Boudbouze, alors certes, il y a peut-être un petit déficit, et encore, je suis pas sûr. Cabella, il nous a fait que 3-4 bons matchs sur la fin de saison. En début de saison,
il était à peu près transparent. La fin de saison, il porte l'équipe. Vous êtes sévère quand même. Sur les derniers
matchs, il porte l'équipe.
Et avant,
c'est un peu plus compliqué.
Il n'y a pas que 4 matchs dans la saison, Daniel.
La dernière ligne droite, quand ils sont tout près de. On se demande s'ils vont pas faire 3, c'est lui qui est bon.
Oui, bien sûr, il met un but à la dernière minute contre. Je ne sais plus si c'est Ramien ou Angers. Il fait un bon truc, mais. Je pense qu'il y a un déficit, c'est ce que je dis. Je pense que Cabella a un poil meilleur que Boudbouze, mais derrière, on récupère 8 millions de delta entre la vente de Cabella et l'achat de Boudbouze.
Oui, mais les sous, il faut que ce soit investi dans l'équipe, sinon qu'est-ce que t'en as à faire, toi?
Alors ça, c'est le vrai souci de Saint-Etienne, c'est que on voit beaucoup d'argent qui rentre avec les transferts, je pense aussi à Saliba, etc. Et c'est vrai que le réinvestissement, et c'est ça aussi sur le sujet qui est intéressant à dire, c'est que on a tendance presque des fois à banaliser, je dis pas forcément à l'AMC, mais à banaliser Sainté quatrième, c'est presque miraculeux. Notre plus gros transfert de l'histoire du club, c'est Diony, quoi. C'est 11 millions plus bonus.
Il devient quoi, lui, c'est sur le banc, tranquillement sur le banc.
On se bat contre des mecs qui mettent 20, 25 millions, 30 millions. On prend des joueurs qui sont des fois des bons coups, des fois on se foire un petit peu aussi. Et là, je pense que pour une fois, le recrutement intelligent, et je crois pas dire de conneries en disant que le plus cher, c'est Bouanga, en investissement
pur.
Je crois que c'est ouais, 4,5, mais je crois que c'est le plus cher, parce que Palencia, c'est 2, ouais. Youssouf, c'est 2.
Kolodziejczak, je crois que sa signature, c'était autour de 5. Mais,
Qui ça, pardon?
Kolodziejczak. Timothée Kolodziejczak.
Ça va pas être un prêt avec obligation d'achat, du coup?
Si, mais autour de 5. Donc, c'est à peu près les mêmes sommes.
Et en tout cas, ça
s'explique aussi par rapport à ce que tu disais sur Saliba. C'est que le paiement a été étalé très largement et que Saint-Etienne ne perçoit pas grand chose dès cet été. C'est aussi pour ça qu'il repousse le paiement de Kolodziejczak.
Et la plateforme de Caserie, alors, on n'en a pas parlé.
Oui, justement. Bah, j'allais y venir, notamment avec Kylian.
Il paraît qu'il a appelé
physiquement,
Bernard Cadetti, là.
Physiquement, ouais. De quand même, j'aime.
Il a eu un forfait avec Mandanda. C'est ça que tu veux dire?
Alors, physiquement, on a vu.
Elle a lâché l'oseille. Quand t'appelles Cadetti, c'est que t'as pas beaucoup d'oseille. C'est le programme à, je sais pas, combien il est le programme comme j'aime.
Je sais pas, mais c'est gratuit la première semaine. C'est comme ça marche, la pub, hein.
Et il est tellement sûr que ça marche que c'est pour ça que c'est gratuit.
Ah, qu'il l'offre la première semaine. Hein. Sympa, le mec. Justement, on a vu Saint-Etienne dominer Dijon, notamment pendant les 30 premières minutes, parce que physiquement, parce que techniquement, ils étaient au-dessus. Et physiquement, on a vu Saint-Etienne plonger à l'image d'un Caserie. Damien, il t'a paru un peu dodu.
C'est une morphologie chez lui qui est constante. De toute façon, c'est comme ça. On n'en fera jamais un athlète avec des tablettes de chocolat de Caserie. Donc autant le prendre comme il est et puis qu'il travaille un peu plus.
Et puis, ça a été un des meilleurs joueurs de la saison à Saint-Etienne.
Aussi. Après, il sort d'une canne. Aussi avec la Tunisie, je crois qu'il fait quart de finale.
Troisième place,
ouais. Donc demi, ouais. Et Caserie, ouais, bien sûr. Mais voilà, pour moi, c'est plus un ensemble. C'est un collectif, Saint-Etienne, quoi. Maintenant, l'auditeur parlait tout à l'heure du recrutement, qui pour une fois, il ne se rate pas. Je ne suis pas d'accord avec lui, parce que pour moi, là où il ne se rate pas sur le recrutement, c'est à la saison où ils sont derniers à la trêve. Et où ils prennent du Mvilla, du Debuchy, je sais plus qui.
Subotic. Il fait une bonne demi-saison.
Exactement. Et aujourd'hui, ce sont les bases.
Au moins marqué.
Les bases et les leaders d'aujourd'hui sont ce recrutement-là. Donc, ces dernières années, vous n'êtes pas planté tant que ça, mis à part, Diony.
Kylian,
justement, l'année où on recrute tout le monde, c'est au mercato d'hiver, justement, parce qu'on est 17.
Ouais.
Parce qu'on va recruter 8 ou 9 joueurs, des Saïdi, Janko et j'en passe. Pour Oscar Garcia à l'époque, qui nous a fait 3 matchs, un derby à 5-0 et qui est reparti. Mais justement, c'est un mercato catastrophique d'été qui nous oblige à sortir les billets. D'ailleurs, je crois même que c'est pendant ce mercato d'hiver-là qu'on est obligé de faire péter le salary cap pour la première fois, ou ça devait être juste avant. Mais il y a eu une telle peur de la quasi-descente, parce qu'on était 17 ou 18, que oui, on allait chercher des joueurs qu'on allait pas prendre depuis des années. Quoi.
Kylian, pour revenir à cette saison, tu as vu le match face à Dijon. On a la sensation que Saint-Etienne physiquement n'est pas prêt. D'ailleurs, Ghislain Printemps l'a dit, hein, Saint-Etienne n'est pas encore à 100%. Il y a pourtant un mois d'août avec la possibilité de prendre des points. Tu comprends que cette équipe ne soit pas à 100% pour le moment?
Le mois d'août, c'est toujours un peu particulier. On fait des matchs amicaux. Les cadres, soit ils sont reposés, soit ils sont à la canne, soit ils jouent 30 minutes, etc. Pour revenir sur Caserie, l'année dernière, il était dodu, il en a planté 14. Donc, s'il me restait dodu, il en replantait 14, ça ne me gêne pas. moi, ça m'inquiète qu'à moitié. J'ai regardé aussi les autres matchs de la première journée. Il y a d'autres équipes qui sont, j'ai l'impression, en manque de souffle. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on soit les derniers de la classe sur ce sujet-là. Par contre, il faut qu'on se rattrape rapidement. Parce qu'il y a certains joueurs, qui ont un peu plus de 30 ans, enfin, les Debuchy, les Perrin, etc., qui, s'ils arrivent pas à se mettre vite dans la danse physiquement, ils auront peut-être plus de mal que les mecs de 24 piges, pour récupérer le volume de jeu sur le terrain, quoi. Mais franchement, ça m'inquiète pas, ça fait quand même pas mal d'années que je suis. Le mois d'août, c'est le mois d'août. Effectivement, il y a des points à prendre, c'est là qu'il faut pas louper. Mais, il faut juste qu'on arrive à intensifier les efforts comme on a fait pendant les 20 premières minutes de Dijon et réussir à faire ça un peu plus longtemps. Mais c'est vrai qu'au bout de 25 minutes, il n'y avait plus rien.
Au mois d'août, il y a deux déplacements. Hein. Donc là, vous recevez Brest, après vous faites à Lille, à Marseille et Toulouse. Et justement, je pense que c'est cet enchaînement de matchs et éventuellement de bons résultats qui peuvent apporter la légitimité à Ghislain Printemps. Auprès de son groupe, pas forcément auprès des anciens, mais auprès de la totalité de son groupe, et de voir qu'il est
sur son début de saison pour immédiatement s'installer.
Ouais, je pense, pense.
Possible.
Dernière question, Kylian. Dernière question. Qu'est-ce que tu as pensé de Trauco, là, le joueur péruvien dont on ne savait pas grand-chose sur sa première rencontre. Quel sentiment?
C'est pour moi, c'est pas trop mal. En plus, j'ai l'impression. Enfin, il a toujours dit dans toutes les interviews. Je vais pas mentir. On regarde pas les matchs de Flamengo avec le décalage horaire. Hein. J'ai regardé pas mal de compilations, mais je regardais pas les matchs en direct. C'est plutôt un latéral qui est très offensif. Et sur ce match-là, j'ai l'impression que pour pas faire le fou, il est pas trop monté. Et à la limite, tant mieux. Il est resté relativement derrière. Il a été prudent. Il a fait 2-3 interventions. Il a fait un tacle assez.
Ouais, mais j'espère qu'il va respecter sa nature, justement, le latéral sud-américain. Généralement est porté vers l'attaque. Si on vient et qu'on lui file des consignes pour se tenir un petit peu, au final, on n'aura pas réellement ses qualités, quoi.
Je pense que Trauco a aussi été pris pour permettre à Saint-Etienne de jouer à 3 derrière, avec Debuchy d'un côté, Trauco de l'autre, justement pour les libérer offensivement.
Ça serait une bonne idée.
Et puis c'est quelqu'un qui vient il arrive il y a une semaine, il me semble. Il y a personne qui parle espagnol à Saint-Etienne, mis à part peut-être Boudbouz.
Ah, mais son match
mais il est très bon.
Son match est très correct.
Voilà. Pour un peu compliqué, mais après,
au vu du contexte, je connais personne, je sais même pas dire bonjour au mec, c'est plutôt très bien.
Je pense que ça peut être le bon coup. On va pas s'emballer, mais ça peut être le très bon coup. De toute façon, vu le pari, ça coûte pas bien cher de se tromper, quoi. Moins cher que Diony.
Ajouté à Moukoudi qui a fait une grosse période là sur les matchs amicaux, qui fait un match sérieux face à Dijon. Là aussi, c'est un transfert rassurant à tes yeux.
Ah, c'est pareil. Hein. C'est encore une fois le pari est pas bien cher. Hein. On a pris libre, donc ça peut être qu'une bonne surprise.
Donc, tu prends tout, toi, tant que c'est gratos.
À Saint-Étienne, quand c'est gratuit, on prend. Et puis après, c'est juste qu'on a du mal à s'en débarrasser. C'est ça,
quoi, tu veux dire que le Stéphanois est raclos? Non.
Non.
Alors, est-ce que j'ai dit ça?
Le Stéphanois est paradin ou
pas? Non, paradin. On le remayait parfois, peut-être.
Au Moloco, il payait sa
mais
tournée.
C'est une gestion en bon père de famille. Merci beaucoup,
est-ce
Kylian.
Est-ce que tu connais, Kylian, le Moloco à Saint-Étienne?
Alors non, je suis pas originaire de la ville. Ah. Moi. Je suis un expatrié.
Ah merde.
Donc toutes les discussions sur les clubs juste avant et les boîtes. Je suis désolé, j'étais juste là pour le foot et la prochaine fois.
Merci. Merci beaucoup, Kylian, d'avoir été avec nous pour
sinon,
nous parler.
Rectification, c'est Bernard de Cadetti.
De cette équipe de Saint-Étienne. Juste pour clôturer, on parlait de Moukoudi. Damien, ça te parle? C'est un nom
qui te parle? Défenseur du Havre l'année dernière.
Absolument.
C'est un central, il me semble. Dans un profil un peu, on va dire, déménageur, mais qui a pas fait un mauvais match. Hein. Là, on a vu des choses bien pires, je trouve, de l'autre côté, à Dijon, à ce poste-là, en tout cas.
Voilà pour cette équipe de Saint-Etienne qui a réussi sa rentrée face à Dijon. On revient dans un instant pour vous parler de l'Espagne. On sera avec l'excellent Fred Hermel dans quelques secondes pour vous parler de la potentielle destination de Neymar. Et puis à la fin de cette émission, on jouera ensemble. On vous donnera le thème tout à l'heure. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16 pour nous rejoindre. À tout de suite dans l'After. Il est 23h20.
RMC, l'After Foot, Timothée Mémon.
23h22, l'after, c'est jusqu'à minuit tout à l'heure. On va jouer avec le quiz de l'after. Avant cela, on va parler de la potentielle destination de Neymar. Le Brésilien pourrait jouer pour le Real Madrid, il pourrait jouer pour le FC Barcelone, il pourrait peut-être aussi jouer pour le Paris Saint-Germain. Ça reste quand même pour le moment la piste la plus probable. Juste avant de rejoindre l'excellent Fred Hermel, on va lui donner une information importante, c'est que Lens s'est imposé pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. Lens a battu 3-2-1 alors que Lens était mené 1-0. Les Lensois sont donc qualifiés pour le prochain tour. Bonsoir Fred Hermel.
Avec une passe décisive du fils de Roger Bolli. Ça ne me rajeunit pas les amis. Hola chicos.
Salut Fred.
Ah là là, ça fait bizarre comme. Vous vous souvenez de Roger Bolli?
Ah bah on se souvient tous de Roger Bolli.
Roger Bolli, oui.
Ouais, c'est son fils qui a
meilleur buteur.
Ah ouais, c'était un super buteur, un petit, il était beaucoup plus petit que son grand frère, Basile. Mais et là, son fils joue à Lens, quoi. Il est déjà décisif, quoi. Magnifique. La vie est belle.
Avec enfin, le maillot Chofi à Jovi Bocco en défense.
Ah, t'imagines.
Tom à Jovi Bocco.
Pardon?
Très belle personne, Jimmy Adjobioku.
Ah, mais je n'en doute pas une seconde.
Moi, c'est très, belle rasta.
C'était à l'époque de mon album Panini, donc je me souviens d'Adjobioku.
Ouais. Créateur c'est un bon notamment mec, tu dis, avec Daniel, d'autres de Diambars. D'où est sorti Gay qui vient d'arriver au PSG.
Ouais. Eh ben.
Allô? Adjobioku, ah, oui, super d'accord, personne, oui. Vraiment.
Non, non, puis très bon joueur. Et Damien, t'as joué à Boulogne et au Touquet?
Évidemment.
Et oui, bah, c'était même la légende.
Oh là 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 là. Ouais. Eh bah dis donc.
Ouais, mais je t'ai pas vu,
en
je t'ai pas
cas,
vu là-haut.
Le week-end, hein,
je voyais Djibo, mais toi, je te voyais pas beaucoup, malheureusement.
Bah, il s'occupait d'un club un peu plus petit que un petit
26
un peu plus
ans.
Important que Boulogne.
26 ans de Madrid, tu vois. Voilà. Bon, on l'envoie où Neymar là?
Parce que on a fait un tour assez exhaustif de l'actualité, voilà, du football du nord de la France, des Hauts-de-France plus exactement. Parlons de Neymar, Fred. Que dit la presse espagnole? Quelles sont les informations? Est-ce qu'il y a quelque chose de crédible, de viable vers Barcelone ou vers le Real Madrid?
Alors, si tu me permets, et avec les goûts qui me caractérisent, on va commencer par mes infos, hein, plutôt
avec
que
plaisir.
Celle de Neymar, voilà.
J'aimerais avec les miennes. On confrontera.
Bah voilà. Alors, le Barça tient la corde pour une raison très simple. C'est que Neymar, lui, veut absolument aller au Barça. Aujourd'hui, un de mes amis à Barcelone, qui est très 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 bien introduit dans le milieu barcelonais, me disait que Neymar, de toute façon, avait trouvé un accord financier avec le Barça au mois de mars, qu'il serait prêt à baisser de moitié son salaire. Mais vous connaissez un petit entourloupe, en fait. Il accepte la première année pour le fair play financier, parce que le Barça n'a pas de cash, etc. Mais bon, s'il revient, il signera pour 4 ou 5 ans, et puis ça sera compensé dans les années d'après. Voilà. Le joueur n'est jamais perdant. Là, ce serait un report de salaire, voilà, pour l'instant, parce que c'est vrai que le Barça, aujourd'hui, n'a pas les moyens. Aujourd'hui, comme vous le savez, Eric Abidal, plus plusieurs dirigeants du Barça, était à Paris pour négocier avec Leonardo. La réunion n'a a priori rien donné de concret, puisque Paris veut du cash et le Barça n'a absolument pas de cash. Le Barça ne veut mettre que des joueurs dans l'opération. Donc pour l'instant, c'est très compliqué de voir le retour de Neymar au Barça, même s'il y a de l'envie de la part du joueur, même si Messi fait un forcing de malade pour que les dirigeants fassent tout leur possible pour qu'il revienne, même si le PSG est d'accord pour négocier, puisque ça s'est produit aujourd'hui. Et le Real Madrid, ce qu'on me dit, c'est que le Real n'a pour l'instant pas du tout discuté de Neymar avec le PSG. Bien entendu, le Real a discuté avec le père de Neymar, mais la communication n'a jamais été interrompue depuis des années avec le père de Neymar. Donc, Neymar sait par son père que s'il venait au Real Madrid, il aurait quasiment un salaire équivalent à celui du PSG, c'est-à-dire 37 millions d'euros net. Mais Neymar veut aller à Barcelone. Le Real, pour l'instant, n'a pas discuté avec le PSG. Le Real attend tranquillement de voir ce qui va se passer dans les négociations avec le Barça, en espérant qu'il n'y ait pas d'accord possible à trouver, justement à cause de ces problèmes d'argent du Barça, et que le PSG, voyant la date fatidique et couperet du 2 septembre, brade un petit peu Neymar. Voilà où on en est aujourd'hui, selon les informations.
Tu m'as laissé que les miettes, t'as été parfait. J'ai pas grand-chose à ajouter, que ça s'est fait à l'hôtel Saint-James cet après-midi, le rendez-vous avec Abidal et l'autre représentant du Barça, et pour tout le reste, tu as même précisé quelque chose d'important, c'est que contrairement à ce qu'on pense, effectivement pour l'instant ils ne veulent faire qu'à des échanges de joueurs sans oseille. et que c'est un vrai problème. Et
ouais, parce qu'ils n'en ont pas, en fait.
Voilà, et qu'aujourd'hui, effectivement, la chance de le voir au Real se réduit de jour en jour. Allez, parce que dans le foot, tout est possible, on va dire 5%, mais qu'à 95%, oui, c'est le Barça et uniquement le Barça. Et oui, effectivement, Neymar ne veut aller là-bas et il est même prêt à faire beaucoup de sacrifices pour y aller. Je pourrais dire que fin août, il y a le PT de Barcelone et qu'il a envie d'être là-bas avec son ami Piqué parce qu'il a un ou deux tournois dans lesquels il veut s'inscrire. Et c'est pas une blague, hein. Neymar veut devenir joueur professionnel de poker après sa carrière, donc il fait déjà des très gros tournois. Voilà, y a pas grand chose à ajouter de plus, ça tout dit Fred.
Moi, il y a quand même quelque chose, Daniel, et toi qui suis beaucoup le PSG et Damien et Timothée, c'est que je trouve le PSG quand même très sympathique de négocier tout de suite avec un, finalement, de rendre service à Neymar, parce que Neymar ne rêve que d'une chose, c'est de retourner au Barça, quoi. Donc ils sont pas rancuniers, je trouve, les Parisiens. Ou alors ils sont très
pragmatiques. Damien, est-ce qu'ils ont vraiment le choix?
Toi, tu ferais quoi?
Non, mais.
Tu l'empêcherais de partir?
Tu moi, je pense que
non, mais si dans l'opération, ouais. En fait, dans l'opération aujourd'hui, si Paris peut récupérer effectivement au final que le Barça réussisse à mettre de l'argent et qu'ils prennent un ou deux joueurs et qu'avec cet argent ils peuvent aller en chercher un troisième ailleurs, bon, très franchement, Paris s'en sortira bien. Hein.
Oui, parce que on se rappelle la discussion qu'on a eue hier un peu plus tôt dans la journée avec notre spécialiste de l'économie du sport, Pierre Rondeau, qui avait une réflexion très intelligente en disant mais le bon coup, le PSG l'a fait. 2 ans Neymar au PSG, ça y est, le PSG s'est situé sur la carte des grands clubs du monde. Donc finalement, même si sportivement Neymar n'a pas
ils
été
hyper rentable... Ils vont chercher Coutinho et Coutinho retrouve le niveau de Liverpool,
ouais,
c'est très...
Ouais, quoi qu'il arrive, Neymar aurait été utile au PSG, c'est ce que voulait dire Pierre.
Oui, il aurait été utile financièrement en termes de visibilité. Oui. Ma question pour Damien, c'est Neymar contre 100 millions plus Coutinho. Tout à l'heure, Fred a utilisé le mot bradé. Est-ce que pour toi, ce serait bradé Neymar
aujourd'hui, il vaut 100 l'autre.
Non, mais ils l'ont acheté 120, mais aujourd'hui, sa valeur, elle est à combien? C'est compliqué aujourd'hui.
Damien,
je pense qu'il faut que ce soit des situations.
C'est pas réellement adapté au Barça, d'accord, que ce mec-là.
Ça serait plus intéressant pour le PSG de faire 2 situations vraiment différentes. C'est-à-dire que tu fais un transfert, même si in fine ça revient à la même chose, je suis d'accord, mais un transfert pour Coutinho et ensuite un transfert Neymar. Et peut-être que les deux se font pas en même temps, j'en sais rien. Mais aujourd'hui,
ouais, mais le problème, c'est que le transfert Neymar seul, ils peuvent pas le faire, ils peuvent pas mettre 200 le Barça.
C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, et même sur les échanges de joueurs, aujourd'hui,
qui
au Barça, voilà, parce que
Semedo, ça peut les intéresser,
exactement. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entendais parler de Rakitic ou tout ça, mais non, aujourd'hui, l'intérêt du PSG, c'est de trouver un arrière droit, de toute façon, et si Neymar part, de retrouver un remplaçant pour Neymar. Voilà. Et avec ça, il leur faut le cash, il leur faut l'oseille.
Coutinho, Semedo et de l'oseille, excuse-moi.
Ah là, oui.
C'est pas perdant, tout va bien.
Voilà, mais il faut combler tes trous au PSG en tout cas.
Même si je suis pas une petite souris dans les discussions d'aujourd'hui, le Barça a essayé de dire oui. Alors on va faire comme vous avez fait avec Mbappé, c'est-à-dire que vous nous prêtez un an avec pendant un an, puis obligation d'acheter Neymar dans un an.
Ouais.
Mais le PSG a dit non. Parce que le PSG le veut cash maintenant, parce que pour acheter,
ça, ils ont besoin d'investir maintenant.
Dybala, bah oui, c'est le problème. Et alors moi j'étais un peu surpris. Alors il y a une chose par rapport au Real Madrid, c'est que ils sont très très silencieux en off au Real. Voilà, je parle des dirigeants. Hein. Je parle des dirigeants, ils répondent pas beaucoup là.
Et Fred, est-ce que tu vois pas justement est-ce que tu vois pas une manipulation de déstabilisation du Barça de la part du Real voilà, pour leur mettre un peu la pression et éventuellement leur faire casser encore un peu plus la tirelire.
Oui, ça, s'ils peuvent faire dépenser un peu d'argent, ils vont pas s'en priver. Mais sincèrement, je connais bien Florentino Pérez. Il pense vraiment qu'il peut avoir Neymar et que si l'occasion se présente, il peut pas le laisser passer, quoi. Voilà. Mais bon, la volonté du joueur. Alors, il y a quelque chose qui est très significatif, c'est que Piqué a demandé publiquement à Neymar de s'exprimer, de dénoncer son désir de revenir au Barça. Il ne l'a pas fait. Et Neymar ne va pas le faire. Parce qu'il sait très bien que s'il le dit, les portes du Real seront terminées, seront fermées.
C'est ça. Autant il est maladroit.
Et le plan B, là, il ne peut pas se permettre du plan B, quoi. Il ne peut pas se permettre de cacher le plan B.
Autant il est maladroit dans sa communication quand il s'agit du PSG, autant là, quand il s'agit de son propre avenir, là, il est un peu plus intelligent, on va dire.
C'est très intéressant ce que tu dis, ouais. Tout à fait, ouais. Et voilà, il parle régulièrement avec Messi. Alors, moi, ce qu'on me raconte, là, à Barcelone, c'est un forcing de Messi, mais énorme, quoi. Ils sont vraiment très très potes, quoi. Et Messi a vraiment très très.
Je veux voir comment ils vont réussir à faire jouer tout le monde. Hein. Les
quatre. Ah ben ça, moi je sais pas.
Ça voudrait dire quoi pour Griezmann?
Ah ben moi je pense que c'est un camouflet pour Griezmann.
Après ils vont transformer ça en les quatre fantastiques. Ouais. Et puis on va voir comment ça va coller.
Alors sincèrement, il s'est pas exprimé sur le sujet, mais pour Valverde, c'est quand même un type très bon entraîneur qui travaille depuis des mois sur l'arrivée de Griezmann, pas sur le retour de Neymar.
Alors, Neymar, on va voir, ça va se tenir à carreau, il ira pas faire.
Non, mais même tactiquement, comment tu fais? Messi va jouer tout le temps, Suarez va jouer tout le temps, tu viens d'acheter Griezmann et t'as
après,
Neymar.
Il espérera qu'un des trois autres se blesse de temps en temps.
Fred, c'est là où ça me. Où en fait, ce genre de transfert me dérange profondément et bien sûr c'est pas le monde des bisounours le foot et on l'a tous compris, mais au bout d'un moment où est l'intérêt pour le Barça? Je suis bien sûr que Neymar est meilleur qu'un Coutinho, voilà, mais aujourd'hui quel est l'intérêt pour eux de prendre un Neymar quand t'as déjà un Griezmann, quand t'as déjà un Messi, quand t'as déjà...
On a l'impression que ça, le problème. Barça dans cette c'est affaire incroyable. ils ont subi depuis le début la situation.
C'est incroyable.
Bartomeu subit cette situation du retour de Neymar parce qu'il y a deux ans tu t'es fait humilier parce qu'il est parti, parce que t'as ta star qui veut qu'il revienne, en fait. Parce que Suarez est content s'il revient, donc en fait ça se joue là-dessus. Et finalement,
c'est pas sportif, hein. C'est, voilà. C'est de la
et finalement, le Barça qui passe pour avoir une direction forte et
c'est
tout.
C'est ce que j'allais te dire.
Et là, il se retrouve, mais il pourrait taper du poing sur la table. Mais qu'est-ce que vous m'emmerdez là?
C'est bon, mais on peut pas faire ça. C'est Messi, pas
terminable à tout ce genre de pression.
Et là, exactement. Ben voilà, il subit cette situation.
Messieurs, Johan est supporter du FC Barcelone. Bonsoir, Johan.
Bonsoir à tous.
Alors, de ton côté, tu imagines Neymar revenir? On peut imaginer effectivement qu'un supporter souhaite le retour de Neymar à n'importe quelle condition.
Peut-être pas à n'importe quelle condition, parce que c'est vrai que l'équipe est déjà, en tout cas devant, bien fournie et à ce qui se fait de mieux. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que Neymar fait partie des 3-4 meilleurs joueurs mondiaux et certainement plus fort que Griezmann. Il n'y a pas de doute là-dessus non plus.
C'est
beaucoup plus spectaculaire, c'est le football champagne, Neymar un peu.
Ouais, excuse-moi, Griezmann est beaucoup, est bien meilleur joueur, beaucoup plus utile à une équipe que Neymar, ça c'est mon avis personnel.
Mais c'est des avis, voilà, moi je suis plus pour le football spectaculaire et je pense qu'à ce niveau-là, Neymar se rapproche plus d'un Messi ou de ce genre de joueur, Ronaldinho, etc., qu'un Griezmann. Voilà, donc après c'est des goûts, hein, les goûts et les couleurs. Après c'est, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au niveau du spectacle, Neymar procure plus de spectacle qu'un Griezmann.
T'as pas souvent vu jouer Griezmann. On va voir si le football champagne de Neymar, même s'il a été très intéressant, s'il a été productif.
Le problème, c'est le problème de Neymar, c'est quand il fait du champagne football. C'est plutôt pas l'inverse. Juste une question, Johan, est-ce que Neymar, s'il revient au Barça, tu l'imagines enclin à se tenir à carreau, ou est-ce que les mauvaises habitudes prises à Paris, d'une certaine liberté, en tout cas offerte par l'institution, comme on le disait, que ça a l'air d'être moins le cas à partir de maintenant avec Leonardo, mais est-ce que tu le sens capable dans un club comme le Barça, qu'il connaît, d'être peut-être un peu plus professionnel, ce qu'on a pu lui reprocher parfois?
Bah, écoutez, à partir du moment, déjà, il a prouvé pendant son passage qu'il s'est tenu plutôt bien. Et puis
à Barcelone.
Et puis quand il est revenu, il y a eu des petits problèmes aussi, hein.
Non, mais il y a
des anniversaires de la sœur et tout ça. Hein. Il y avait quand même beaucoup de voyages au Brésil. Hein.
En gros, il a été plutôt bien géré. Et de toute façon, il arrive, s'il revient au Barça, c'est pas la star. Donc déjà, c'est une grosse différence. C'est qu'il sait qu'il vient dans une équipe où la star, c'est Messi.
Alors qu'il était parti pour être la star de Barcelone.
Voilà, donc il va revenir, je pense que encore plus, la tête baissée encore plus que la première fois, que lors de son premier passage. Donc moi je me fais pas de soucis là-dessus, et surtout que le Barça c'est un club qui a une histoire et qui a des titres que Paris n'a pas. Donc il est arrivé à Paris avec un autre statut. Et au Barça, s'il revient, il aura un statut qui sera complètement différent, c'est-à-dire en dessous de Messi, quoi qu'il arrive.
Merci donc beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous au 32-16. On va accueillir Adèle. Bonsoir, Adèle.
Bonsoir à l'équipe. Alors, excusez-moi, je vais juste couper le haut-parleur.
Voilà, vous m'entendez. Fais comme chez toi, hein.
Ouais, fais comme à la maison.
Désolé, les gars.
Mais tu es chez toi, d'ailleurs, Adèle.
Adel, toi, tu es supporter du PSG. Est-ce que tu imagines Neymar rester? Qu'est-ce que tu souhaites? Hier, on parlait de 80% des supporters du PSG qui voulaient son départ. C'est ton cas?
Bah moi, je fais partie des 80% qui souhaitent son départ, et je pense qu'on est plus que 80%.
Moi, je pense plus aussi. Ouais, j'ai dit ça comme ça.
Salut Fred Hermel, parce que c'est la première fois que je passe avec lui à l'antenne, et c'est un réel plaisir. Salut Fred.
Ah ben c'est gentil, ça fait plaisir.
Ah bah, y a pas de mal.
Mais est-ce que toi, je vais te poser une question,
ouais,
puisqu'on est entre potes.
Ouais, je t'écoute.
Est-ce que quand il y a 2 ans dans l'after, à peu près à la même date, je disais que Neymar était nia en merde, est-ce que tu pensais que j'avais raison?
Je pensais que t'avais raison, mais je pensais pas autant. Je savais que t'avais raison, mais pas autant.
Là, moi non plus, je pensais pas que ça allait être autant.
Encore une fois, Fred, si t'as des emmerdes, mais qu'au bout du compte, t'as un résultat sportif, ça passe mieux.
Ouais, alors c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas eu, quoi.
Alors que là, tu sais, c'est un camouflet pour Neymar aussi, en retournant à Barcelone comme ça.
Le match aller contre le Real, il a été là, il a rien fait. Donc, au match retour, s'il avait pas été blessé, on n'aurait jamais su, mais je pense pas qu'il aurait fait grand chose aussi. Moi, après, mon avis, il est simple. Moi, pour moi, Neymar, c'est une trahison, ce qu'il nous a fait. Parce que bon, tout le monde sait, il a été accueilli en grande pompe, avec la Tour Eiffel et compagnie. Vous en avez parlé hier. On en parle depuis longtemps. Et, voilà, les phrases qu'il a envers les, en fait, il veut régler sa situation personnelle, il n'y a pas de souci. Mais qu'il nous prenne pas en otage à dire derrière. En fait, il nous discrédite et limite, il nous humilie. Donc, rien que pour ça, faut qu'il s'en aille et je veux plus jamais entendre parler de lui.
Mais tu sais, par rapport à ça, je comprends ce que tu veux dire. Les déclarations de Neymar, notamment sur la remontada, tout ça, ont été vraiment commentées en Espagne. Mais c'est pas le PSG qui a été moqué ici. C'est Neymar. C'est Neymar qui a fait du mal à son image. Je pense que le PSG a l'air d'une victime.
On se rend pas compte à quel point il est en train de dégrader depuis maintenant plus de 2 ans son image tout seul, ce mec-là.
C'est pas le PSG. Non.
Messieurs, si Neymar a dégradé son image à ce point, imaginons qu'il revienne au Barça. Il revient dans quelle position? Celle de la star mondiale qui continue à viser le Ballon d'Or, ou alors est-ce qu'il baisse la tête et il devient porteur d'eau?
Il ne baissera pas la tête.
Puis les gens sont ravis, vont l'applaudir et
voilà,
tout.
Il sera content.
Mais en revanche, pour lui, personnellement, en tant que joueur, s'il retourne à Barcelone, c'est un échec de retourner de là d'où tu viens. T'as voulu être
retourner
roi,
dans l'ombre de Messi.
T'as voulu être roi dans un autre club. T'as échoué, bon bah finalement, allez, tu vas passer second
t'as pris,
roi.
T'as pris 37 millions de nets.
Ouais, mais Fred, tu sais,
ces gens-là pensent pas beaucoup au foot, hein, tu sais.
Est-ce qu'après ces atermoiements, Neymar a dit adieu au Ballon d'Or?
Alors là, franchement, Timothée, mais alors je m'en fous de ça, je te promets.
Moi j'aime bien. Après,
ce que je voulais dire, c'est que
parce que je suis en Espagne, le Ballon d'Or est une obsession en Espagne, ça tu le sais. Neymar aujourd'hui est une grande star du football. C'est un galactique sur le papier, mais aujourd'hui c'est pas un joueur qui peut te faire gagner beaucoup. Tu sais pas, ça fait 2 ans où il joue la moitié d'une saison. On ne sait pas trop le niveau physique de Neymar.
Et Fred, Damien Perrinet, tu sais, au bout d'un moment, Neymar, là j'avance aussi. Faut plus qu'il perde trop de temps.
Il a 27 ans déjà.
Et l'état de son pied n'a jamais été évoqué en Espagne.
Ah, bien sûr que si.
Sa blessure exactement au même endroit 2 fois.
Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Bah oui. Mais moi, l'autre jour, il y a une personne importante du football français, on parlait, et il m'expliquait avoir parlé avec un médecin qui considérait que la manière de marcher et de courir de Neymar allait provoquer
un vrai problème.
Une nouvelle blessure, tant qu'il n'aurait pas été opéré de cette entorse.
Bah, je suis absolument d'accord.
Ça peut même provoquer une blessure ailleurs.
De l'autre côté. Il y a la possibilité de rechute côté blessure et la possibilité de blessure d'autre côté.
Et si tu le vois encore hier, concert, tout ça, enfin, je veux dire, il a pas la vie. Je veux dire, c'est l'opposé d'un Cristiano Ronaldo, quoi. C'est-à-dire dans le travail, dans la préparation, tu vois. Donc, moi, je comprends que Zidane n'ait pas envie de l'avoir, quoi. Enfin,
messieurs, on va retourner voir Adèle. Adèle, on a la sensation donc que Neymar, avant d'avoir la sensation, il l'a dit qu'il voulait partir. On parle du Real, du Barça, mais toi, tu es relativement pessimiste quant à la possibilité de le voir partir?
Exactement. Moi, je pense que... Après, ce n'est que mon avis. Moi, je pense qu'il ne va pas partir cette saison parce que financièrement, le Barça ne pourra pas. Ils ne vont pas trouver un terrain d'entente avec le PSG. Le PSG ne va pas vouloir le brader. Parce que si on se rappelle bien, quand il a signé au PSG, pendant la conférence de presse, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le président El Khelaifi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Neymar, dans quelques années, il voudra le double. Donc lui, il y avait déjà un esprit de revente. Bon là, s'il le revend doublement moins cher, c'est un échec. Et moi aussi, une chose très importante que j'ai pas pu vous dire, mais je pense que voilà, le gars, s'il part au Real, les supporters du Real n'en voudront pas parce qu'ils savent très bien que c'est un ancien du Barça.
Si. Non, mais s'ils en voudront, mais si, parce que c'est une prise de guerre.
Les supporters du Real,
ils ont bien voulu Figo. Hein.
Ben oui, exactement. C'est, il faut faire un parallèle direct avec ça. Bravo Damien. C'est ouais, ça, mais les supporters, mais enfin moi je suis un supporter
les
de foot.
Les supporters, c'est celui qui est cocu qui fait la gueule. Celui qui a fait cocu l'autre, généralement.
Voilà,
ça mieux.
Puis c'est Adèle, tellement Adèle, facile à retourner quoi.
Adèle, en tant que supporter du PSG, t'as demain, t'as Neymar, il t'emmène en finale de Champions League, il l'a fait gagner, t'as tout oublié. Mais on va pas se mentir.
Avec le temps, mais peut-être que la douleur va s'atténuer, mais on n'oubliera pas. Moi, tu peux pas oublier une telle trahison.
Merci. Non, mais le temps des supporters, Adèle, simplement Adèle, le temps des supporters n'est pas le temps normal de la vie. Je trouve que les supporters oublient les titres très rapidement et oublient les trahisons très rapidement aussi. Ça va beaucoup plus vite dans le football que dans la vie.
Celle-là, on verra bien. On en reparlera dans quelques temps.
Ça marche, on t'attend Adèle.
Salut,
pour
Adèle.
Aller reparler sur RMC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16. Une dernière question pour toi, Fred. Si Neymar ne part pas cet été, est-ce que c'est imaginable de le voir partir en hiver?
Oh là là.
Non, je crois pas. Enfin,
est-ce qu'un joueur de cette ampleur, est-ce qu'un transfert de cette ampleur peut exister lors d'un mercato hivernal?
C'est très rare. Je crois qu'il y a eu quoi? Il y a eu Coutinho qui a fait ça. Non?
Exactement.
Et il joue les 6 premiers mois avec le PSG.
Remarque, maintenant, t'as le droit de jouer la Champions League avec deux clubs différents.
Ouais, ça me paraît. Ça
mais
me
c'est
paraît
compliqué.
C'est une question intéressante, mais ça me paraît compliqué, quoi. Parce que le Barça n'aura pas plus d'argent au mois de janvier que maintenant. Hein.
Il pourrait commencer la Champions League avec Paris, puis après éliminer le PSG en deuxième partie de saison. C'est Barcelone. Merci beaucoup, Fred Hermel, d'avoir été avec nous pour nous parler du Real, du Barça.
Salut, à bientôt au Chatham.
Neymar, on revient dans un petit instant.
Au Chatham, rue Saint-Jean, au Touquet, quand même.
Ah, oh là là. Mais alors, le Touquet, tu sais, c'était. On y allait 15 jours en vacances quand j'étais petit. Mais oui, moi, j'étais trop petit quand j'allais au Touquet. Et pour mes parents, c'était le symbole de la réussite sociale d'employé de pouvoir se prendre 15 jours en vacances au Touquet.
Toujours. Hein.
23h44, on revient.
Et le chat bleu, tu te souviens des chocolats du chat bleu?
Petite seconde.
On y allait jamais, c'était trop cher.
On va parler en antenne des chocolats du chat bleu, si vous le voulez bien.
Sinon,
on revient dans une toute petite seconde pour la suite et le quiz de l'after. À tout de suite.
Saint-Etienne, ça ressemble au relais Jarium.
RMC, l'afterfoot, Timothée Mémon.
C'est l'heure du quiz de l'after, le dernier quart d'heure. On va évidemment accueillir deux supporters. On accueille Karim, supporter du Paris Saint-Germain.
Salut les amis.
Et alors, je veux pas écorcher ton prénom, c'est Leyan,
ouais.
Leyan, supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà un petit classique.
Leyan.
Pour cette rencontre. Karim, tu as quel âge?
39 ans. J'ai 19 ans et en fait, j'écoute l'after depuis que j'ai 7-8 ans, quand mon père m'a offert une radio, petite radio portable, et je lâche pas depuis, quoi.
Leyan, c'est une très belle histoire. Mais du coup, tu es plus jeune que Karim.
Non, je suis pas un footix parce que mon père vient de Tunisie. On sait qu'en Tunisie, il y a beaucoup de supporters de l'OM. Moi, je suis pour l'OM parce que mon père est pour l'OM, quoi.
Voilà. C'est tout. C'est propre. C'est net.
Du coup, c'est Karim, le doyen de nos auditeurs. Karim, tu veux jouer avec Daniel ou avec Damien?
Je suis parisien, je vais prendre Daniel, je pense.
Allez, et ben donc avec Daniel, on a
Damien,
Karim et Leyan, tu seras avec Damien.
Ça marche.
Messieurs, le thème de ce quiz, ce sont les
établissements
joueurs français
du Forez.
Pas du tout, pas du tout. Les joueurs qui ont été de véritables globetrotteurs, voire des mercenaires, c'est parfois le terme utilisé. Bref, les joueurs qui sont passés par de très nombreux clubs et on a choisi uniquement des joueurs français. Je vous rappelle, chers auditeurs, Karim, Leyan, que pour m'interrompre, vous donnez votre prénom, puis la réponse. Okay. Et en plateau, évidemment, c'est un petit peu plus
direct
et un petit peu plus facile. Première question, je suis né à Arles en 1981, j'ai 38 ans.
Djibril Cissé.
Ah bah alors là...
Bah c'est le coup.
Bravo Daniel.
Ouais, non, mais c'est fort quand même, Daniel.
Mais non, c'est... tu l'as fait. On l'a fait
hier. Ouais, c'était hier. C'est grâce à hier. Ça.
Alors, hier. Au total, hier, dans ma carrière, j'ai joué pour 10 clubs différents. Mes armes étaient ma pointe de vitesse, mon énorme frappe de balle. Je joue pour l'OM, la JOCR notamment. J'ai joué dans le championnat grec pour le Panathinaikos. Et j'ai gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Ça fait 1-0 pour la
bien
team
Daniel.
Daniel. Ça part très très vite, messieurs. Alors, deuxième question. Je suis né dans les Yvelines en 1979. J'ai 40 ans.
Anelka.
Il faut qu'on tienne jusqu'à minuit. Hein. Donc, si tu peux laisser jouer un peu les gens. 2-0 pour la team Daniel.
Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi?
Daniel.
Bon, déjà, dans ma liste, dans ma tête, des mecs qui ont fait beaucoup de clubs, Anelka y était. Et t'as voulu éviter le piège de dire né à Trappes.
Exactement.
T'as dit né dans les Yvelines.
Exactement.
Né à Trappes, ça aurait été trop simple. Donc, quand t'as dit né dans les Yvelines, c'était lui.
Nicolas Anelka, petite
t'as
question.
T'as parlé deux secondes. Et il a eu le temps de penser à tout ça pendant la question, quand même. Tu vois,
ça s'appelle être brillant. Ouais, alors, alors petite question subsidiaire. Combien de clubs pour Nicolas Anelka?
Waouh, 11.
Waouh. Oh non, Arsenal. Mais...
Eh ben, c'est 12, messieurs. Ouais. 12 clubs pour Nicolas Anelka. Allez, c'est un petit peu plus difficile pour la suite. On va peut-être avoir le temps de jouer. Je suis né en 1984 à Hennebon. J'ai 34 ans. Je commence ma carrière pro au sein de mon club formateur, Le Havre, en 2001. J'y joue 62 matchs.
Le Telec.
Bravo.
Oh, bravo. Joué,
Damien Périnel est back in the game. Effectivement, il a joué pour 11 clubs au total, parmi lesquels Saint-Étienne, Sochaux, Le Mans, Orléans, et son petit frère joue à Montpellier. Nouvelle question avec un joueur qui a aujourd'hui 34 ans. J'ai joué pour 14 clubs dans ma carrière. Je commence au Havre également en 2001. Je marque 9 buts.
Goal, alors.
Cinéma Pongol, l'un et l'autre. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. En régie, il faut m'envoyer d'autres questions.
On va gagner du temps. Tu pourras nous parler du Moloko.
M'envoyer d'autres questions. Ça fait 3-1 pour la team Daniel face à celle de
bien, Daniel.
Damien. Je suis né à Angers en 1973. J'ai donc 45 ans aujourd'hui et j'adore le beach soccer. Je commence à Laval en 1993, club que je quitte définitivement après un prêt à Châtellerault pour m'engager à Ajaccio ensuite. Je ne suis jamais parti du championnat de France. Je suis notamment passé par Nîmes, Strasbourg, Rennes ou encore l'OM. Je n'ai joué qu'à partir de 27 ans en
Joël
Ligue 1.
Fontana.
Non. Je n'ai joué qu'à partir de 27 ans en Ligue 1 pour 244 matchs, 67 buts. J'ai la particularité d'avoir évolué sous les ordres des frères Cantona dans l'équipe de France de beach soccer.
Marc Libra.
Agis.
Oui.
Karim.
Karim, bien joué Karim. Bien joué, Pagis. Karim. Michael Pagis.
Eh, né à Angers. Putain, mais dès le début, j'aurais dû.
Michael Pagis, effectivement, joueur élégant, qui a joué pour 8 clubs tout de même.
Très beau
8
joueur
clubs
de
français. Magnifique joueur de foot.
Ah oui. Ouais.
Ces années rennaises, notamment.
Ah, mais c'est un beau joueur de
foot. Même à Sochaux.
Sochaux, surtout.
Ah, ouais.
Sochaux.
Tu dois mettre des années en avant, Sochaux. Il avait la
il
classe.
Il gagne la Coupe de France avec Sochaux, non?
2007. Tu crois il est dans l'équipe en 2007?
Ah, je sais pas.
On va vérifier ça. Je suis né à Lille. Je vous rappelle que ça fait 4-1 pour la team Daniel face à la team Damien. Il va falloir se réveiller. Je suis né à Lille en 91. J'ai 28 ans. J'ai joué pour 11 clubs dans ma carrière. J'étais considéré comme un grand espoir du foot français. Pour preuve...
Rémi ?
Oui, Rémi.
Léane
Le Crémy, c'est non. Effectivement, si tu me donnes le prénom de quelqu'un d'autre que le tien...
Léane Calcutta.
Excellente réponse.
Jouer,
excellente
Léane.
Réponse, Léane. Ça fait 4-2. Gaël Kakuta, effectivement, passé par Chelsea. Les Blues me prêtent un grand nombre de fois. Fulham, Bolton, Dijon, à l'Alasiodrome. Et il est en place, évidemment, de revenir à Amiens. Mon poste préféré était milieu offensif. J'ai une carrière très mouvementée en France et à travers l'Europe.
Léane, Marvin Martin,
c'est pas Marvin Martin, Daniel? Tu as dit
Gravelaine,
c'est ça.
Ouais.
Magnifique. 5-2 avec Gravelaine, qui est donc passé, qui a été transféré 18 fois en 17 ans de carrière. C'est c'est le recordman français. Tiens, d'ailleurs, petite question.
Attends. Là, en gros, tu as dit, c'est un milieu offensif qui a une carrière très mouvementée.
En France. Et Daniel dit Gravelaine.
Gravelaine.
Non, mais d'accord,
c'est
mais
le recordman, Gravelaine. C'est facile, le Gravelaine.
D'ailleurs, alors là, on a le recordman des plus grands nombres de clubs en France. Est-ce que vous connaissez le recordman absolu
C'est l'Uruguayen.
Oui, absolument.
C'est un Uruguayen, je ne me rappelle plus comment il s'appelle.
Il a fait 26 clubs.
C'est qui 26 clubs au total dans sa carrière. Abreu.
Abreu, voilà.
Abreu, il a fait autant de clubs que ça.
26 clubs dans sa carrière.
Ce joueur.
Pour
fantasque à moitié barré.
Abreu, effectivement. Abreu.
Uruguayen, quoi.
On continue et on vous rappelle que ça fait 5-2 en faveur de Daniel et Karim face à Damien et Léane. Je suis né en 80, je débute ma carrière en Saône-et-Loire avant de partir au Bayern Munich puis à Liverpool. J'enchaîne quelques prêts en France.
Allô, Diarra.
Magnifique. Oh, de Damien, ça revient. 5-3, magnifique. Effectivement, Alou Diarra, avant de rejoindre Lens en 2005 à l'âge de 24 ans, j'ai connu 13 clubs en tout.
Alou Diarra,
13 clubs. Et les plus belles années, peut-être aux Girondins de Bordeaux.
Oui, Alou Diarra, ouais.
Et d'accord.
Bah, il est international. Il est capitaine de l'équipe de France et il fait la finale 2006. Hein.
Il rentre à la place de Viera. Ouais.
Alors,
dédicace BEF. En fait, j'ai passé mon BEF avec lui cette année, donc c'est pour ça, ça me permet.
Dédicace à Alou Diarra, le mot est passé. Je suis né au Havre, je commence ma carrière à la Zidane, Cannes puis Bordeaux. En 2007, je rejoins.
Kikou ?
Non. En 2007, je rejoins West Ham. Au total, je compte 9 clubs dans 7 pays différents. J'ai une sélection avec les Bleus et j'ai marqué lors de cette seule et unique sélection. La plus grande surprise de ma carrière, non. Mais la plus grande surprise de ma carrière aura peut-être d'avoir joué pour le Real Madrid.
Ah, Faubert.
Faubert.
On l'a dit en même temps tous.
Alors là, c'est Damien. C'est Damien.
Bon.
Ah, alors on me confirme dans l'oreille. On me confirme, c'est Damien et on ajoute pour le suspense. Non, donc en fait, c'est pas Damien.
Je pensais qu'on l'avait dit en même temps, mais bon, je lui donne le point.
C'est pas Damien. Il nous reste une question qui vaut 2 points.
Je peux même pas te leur donner.
Qui peut permettre
point parce
éventuellement.
Que, là, sinon, c'est mort.
À la team Damien Léane de revenir, de remporter cette rencontre.
Vas-y, on fait qui tout double sur celle-là.
Voilà, c'est qui tout double.
Et après, il y a les pénaux parce que sinon, t'auras pas le temps et tu vas être obligé de nous parler du mot loco. Donc.
Alors, question suivante. Je commence ma carrière en 97 à Montpellier. J'ai connu de belles années avec l'OM lors de la saison 2006-2007, mais surtout avec le RC Lens de 2008 à 2011. Je compte avec Lens 120 matchs, dont 34 buts. Je n'ai...
Allô ?
Je finis... Oui ?
C'est quoi les années ?
Alors, je finis...
Je sais qui c'est. Comment il s'appelle ? C'est le Sénégalais.
Alors, ce sont Allô des Français. Je finis ma carrière à Tours en 2017. Je suis né à Mayotte.
Ah, Maoulida.
Maoulida, bonne réponse Maoulida. De Daniel. Effectivement, Maoulida.
Ah oui.
Effectivement. Victoire de Daniel et de Karim face à Damien et Léane.
Mais qu'est-ce que tu vas
faire ? Désolé, Léane.
Non, on a évidemment quelque chose à vous proposer pour la dernière minute. Merci beaucoup, les gars, de nous avoir appelés. Félicitations, Karim, pour cette brillante victoire. Félicitations à Daniel qui a été une véritable machine sur ce quiz. Messieurs, la dernière chose qu'on voulait vous proposer dans cet after, c'était.
Le tirage possible de la Ligue des Champions avec Nicosie Ajax.
Non, c'était les premiers mots de Gourcuff à la tête de Nantes. C'était sa conférence de presse cet après-midi. Je vous laisse écouter Christian Gourcuff.
J'étais bien en retraite, dans le fin fond de la Bretagne, avec mes chiens. Donc voilà, c'était une nouvelle vie. Après, par contre, c'est toujours la passion du foot. Il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. Et puis je me suis donc engagé avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai jamais caché mon admiration pour le FC Nantes de Ciudo, de Reynald de Nouex. Je revendique une certaine filiation de technique de ces gens-là, que j'apprécie aussi humainement. Je ne dis pas que c'était un rêve, mais ça a été à un moment donné peut-être un objectif dans la tête. Et puis surtout, je restais en Bretagne.
Messieurs, Christian Gourcuff était bien à la retraite et il vient se marier avec la famille Kita. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui coince ou tout va bien dans le meilleur des mondes ?
C'est bien la preuve que de toute façon, quand on a dit il ne va pas pouvoir bosser avec Kita, ça va être compliqué, qui va bien vouloir y aller ? Le qui va bien vouloir y aller quand on posait cette question, c'était un type qui faisait rien, qui s'ennuyait, qui avait été un petit peu oublié, qui est un bon entraîneur, qui avait envie de bosser parce que c'est un passionné. Et évidemment que savoir si Kita va le saouler du matin au soir, on va l'emmerder sur ceci ou cela, il s'en fout, il avait envie de bosser et d'y aller. Et comme il le dit, je pense en plus qu'évidemment ça lui déplaît pas Nantes, Parce que oui, c'est vrai qu'il y a une forme de filiation chez lui dans l'histoire du foot à Nantes. Donc c'est quelque chose.
J'entends ce que tu dis, mais bien, Damien, d'accord, filiation, Christian Gourcuff Nantes avec les entraîneurs qui ont été sur la durée. Mais par contre, Christian Gourcuff avec Valdemar Quitta qui a utilisé beaucoup d'entraîneurs, ça paraît un peu moins naturel.
Et surtout avec les joueurs, même avec les joueurs qu'il a aujourd'hui,
il va avoir du mal, oui.
Ça va être compliqué.
C'est là, il va sortir le 4-4-2.
Ouais, c'est ce qu'il veut faire, mais un 4-4-2, de la manière dont Gourcuff veut le jouer, il faut l'avoir pratiqué au centre, il faut l'avoir fait pendant plusieurs années.
C'était ça ou le potager.
Mais bien, je sais bien.
Oh non, je viens pas parce que Quitta, machin.
Voilà.
Ça, c'est pas comme Laurent Blanc qui repousse toutes les offres.
Il y a des gens qui restent sur leur potager. Il y a des gens qui restent sur leur potager. On parlait plus de Coco Ciodo.
Coco Ciodo est dans son potager. Il a toujours envie, il veut plus en sortir depuis des années. Mais lui, visiblement, il s'ennuyait. Entre les courgettes et les patates.
Donc,
il
a envie de revenir. Un Quitta, quand il est arrivé, il a voulu faire table rase de tout ce qui s'était passé avant avec les deux Nouax au Ciudo, et finalement il y revient par l'intermédiaire d'un Gourcuff.
Il y revient parce que il a eu cette idée, sinon quand tu sais que c'était soit Gourcuff soit Domenech, c'est qu'au niveau de tes certitudes et de tes envies, tu sais pas trop où t'es quand même.
Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous dans l'after. On se retrouve demain. Tiens Daniel, demain on va parler notamment de savoir s'il faut rester un romantique avec sa cheville au corps et se battre contre le football Guinness, ou bien accepter.
Il y a la fausse patte bataille.
Accepter, absolument, absolument. Il y aura la fausse patte bataille qui sera là pour nous parler de sa vision romantique du football face au foot moderne. Quelques informations à vous donner juste avant de vous laisser. L'Ajax, le Tchéphéry Cluj face au Celtic, Krasnodar face à Porto, se sont qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous dis à demain.
Ciao.
Pour suivre la rencontre, tout d'abord de Supercoupe, ce sera évidemment à suivre sur RMC entre Chelsea et Liverpool, et puis dans la foulée ce sera l'after. On sera ensemble pour toute cette belle soirée de foot européen et d'after. À demain, et n'oubliez pas ce que disait Bill Shankly, le football c'est pas une question de vie ou mort, c'est beaucoup plus important que ça.
RMC l'after foot.